Session sur la personne par le père Philippe, le 11 juillet 1989 à Saint-Jodard.
Si vous avez eu des rêves métaphysiques, n'hésitez jamais de les noter et de les mettre ici, s'il y a des questions qui se posent. En plus des petites sessions, d'autre part, je serai à votre disposition après le cours du matin, donc à la fin du cours et avant la messe, et l'après-midi de 4h à 5h, et s'il y a des urgences, après le cours à 6h, pour que vous sachiez. Question, j'y reviendrai là-dessus. Je vais continuer à essayer d'entrer dans ce problème philosophique capital. Tout tourne autour. Alors, si vous voulez, avant d'entrer vraiment dans la philosophie, je prends la méthode aristotélicienne, que j'aime beaucoup. Aristote, quand il s'agit d'un problème, commence à voir ce que les autres philosophes ont pu dire. C'est un très grand respect, ça. Mais plutôt que de dire, ben oui, j'ai tout découvert, pas du tout. Nous sommes dans une tradition humaine. Et dans cette tradition humaine, il y a une pensée philosophique. Européenne, américaine, africaine, et ainsi de suite. Mais comme nous sommes en Europe, et que l'Europe est d'une certaine manière pour l'Occident, faut se le dire, le cœur. L'Amérique, c'est des petits cousins qui se sont enrichis et quelquefois ont oublié les grands-parents et les vieux parents irlandais ou français. Ou espagnol. C'est très intéressant de voir ça. La source est quand même l'Europe, la Grèce, Athènes, Rome. Ça, on ne peut pas nier. Puis Paris, le Moyen-Âge, Cologne, Paris. Il faut voir les petits centres. Ce serait intéressant, du reste, hein, faire la carte géographique des points forts de la pensée européenne. Faites ça. Manière de penser l'Europe. Et il faut comprendre qu'il ne faut pas revenir en arrière. Si l'Europe se fait de nouveau, elle va se faire d'une façon tout à fait autre. On ne peut pas revenir en arrière. C'est impossible. Mais c'est bon de voir ce qui a été pensé. Alors, au point de vue de la personne, la topique est assez rapide. Ce que j'appelle topique historique. C'est-à-dire trouver les lieux. On fait ça rapidement. Hein. L'année prochaine, ici, du moins, au point de vue scolaire, à partir du mois d'octobre, toute l'année, nous traiterons le problème de la personne. Je vous donne le petit condensé. Mais toute l'année, on consacre une année sur le problème de la personne. Tellement c'est important. Mais c'est au fond le point, je crois, névralgique d'aujourd'hui. J'essaierai de vous montrer quelques points importants comme ça. Alors, il y a quelque chose d'important à comprendre. Si je cherche uniquement au point de vue du mot, c'est la méthode matérielle des lexiques. Aujourd'hui, avec même l'ordinateur, on fait ça. L'ordinateur ne pense pas. Mais l'ordinateur reste au niveau des mots. C'est pour ça que si on ne dépasse pas l'ordinateur, on devient un imbécile. Parce que c'est les mots. L'ordinateur n'enregistre pas la pensée, mais les mots. Alors, il y a le mot « personne ». Qu'est-ce qui a parlé de la personne? C'est très bien. Mais il y a peut-être quelque chose de plus important. La personne, c'est un mot qui exprime une réalité. C'est pour ça que quand je regarde uniquement les lexiques, je suis sûr de me tromper. C'est très matériel. Je me souviens, c'était un professeur de Sorbonne, de philo, qui venait faire une conférence à Fribourg sur Sartre. Alors qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait une table des mots de Sartre. Quel est le mot le plus employé dans Sartre ? Et pour lui, c'était cela l'essentiel de toute sa philosophie. Vous voyez comme c'est matériel. Est-ce que vous pourriez dire « Ah, ah, ah !» Ah, voilà le mot essentiel, vous l'avez dit trois fois. C'est intéressant comme approche, mais ce n'est pas une étude philosophique. C'est une approche. Le langage est un signe. Ce n'est pas la réalité. Et le philosophe étudie la réalité et pas les signes. Oui, je regarderai dans un lexique sur saint Thomas quel est le mot le plus employé dans saint Thomas. Ce n'est pas nécessairement ça qui va me faire comprendre ce que c'est que saint Thomas. Je peux faire ça pour la Bible. C'est intéressant comme approche. C'est un signe, pas plus. Et aujourd'hui, il faut être farouche là-dessus. Parce qu'il y a la grande tentation de s'arrêter à la parole. Donc de s'arrêter au signe. C'est encore du positivisme. C'est un positivisme, ça. Le philosophe s'arrête à la réalité et pas au langage. Saint Thomas a un petit passage très intéressant là-dessus, en disant le mot « personne » n'a pas existé dans la philosophie antique avant les stoïciens. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas pensé sur la personne. Mais le mot n'y est pas. Alors ça, c'est intéressant de savoir pourquoi le mot n'y est pas. Et comment apparaît le mot, la naissance d'un mot. C'est très intéressant au plan philosophique. D'essayer de comprendre la naissance d'un mot. En grec, personne, c'est prosopone. Prosopone, qu'est-ce que ça veut dire étymologiquement? Comme hypostasis, hier. Hein, ce serait intéressant de regarder les deux, vous savez. Hypostasis, prosopone. Prosopone, qu'est-ce que c'est? C'est le masque. Donc, le mot personne, en français, vient de prosopone, grec. Et le mot, étymologiquement grec, c'est d'abord le point de vue du masque. Il faut comprendre la tragédie grecque. Le masque, ça joue un rôle énorme. Le masque du philosophe. Hein, je devrais apparaître avec un masque, le hibou. Comme ça, uniquement avoir un masque. On aurait dû faire comme ça, hein, de commencer la session comme ça. Je serais arrivé avec un grand masque. Vous n'auriez rien vu. Un masque énorme qui prend tout. Hein. Un masque. Le hippie. Pourquoi ? Parce que le philosophe, il est attiré vers la vérité. Mais il est myope. Je ne vois que les réalités extérieures. Je ne vois que le langage. Je ne vois pas la réalité. Alors, le hippie. Le masque. C'est très curieux. Et la tragédie grecque aimait beaucoup les masques. Vous voyez ? Alors c'est intéressant de voir prosopone, le masque, qui va être progressivement, à partir des stoïciens, gardé à la personne. Alors vous touchez là quelque chose de très important. C'est qu'au fond, le masque, c'est le personnage. Vous jouez un rôle. Il y a des gens qui jouent un rôle dans la vie. Ils s'identifient à leur rôle. Je suis un haut fonctionnaire. Et je m'identifierai haut fonctionnaire. Et quand vous êtes président de la République, au bout d'un certain temps, la fonction président de la République, personnage, s'identifie avec la personne. La personne est complètement diluée dans le personnage. Ça existe, ça. Thank you. Et c'est très curieux. Extrêmement. C'est quelque chose de très intéressant au point de vue philosophique. Voir toute la différence entre le personnage et la personne. Hypostasis. L'hypostase. L'hypostase, ce qu'on voyait hier. L'hypostase est née beaucoup plus tardivement pour être la personne. Vous voyez, l'hypostasis exprime le mot savant. La personne, c'est la base. C'est la référence. Toutes vos activités, c'est votre personne. Le masque, c'est le rôle que vous jouez. On joue tous un rôle. Vous voyez, c'est quand vous identifiez l'habit et le moine. Hein ? Il y a des moines qui sont leur habit. Alors ça devient le mannequin. Le moine mannequin. C'est très curieux. C'est habits extraordinaires, toujours propre, merveilleux. Mannequin. Vous piquez, aucune réaction. C'est un mannequin. Amusés dans le temps, quand on était enfant de cœur, et qu'il y avait des Suisses. Vous savez, des Suisses qui étaient là, Karl Barth. Puis qu'il y avait des mollets extraordinaires. Les enfants de cœur se demandaient si c'était des vrais ou des faux. Et on prenait des petites aiguilles et on piquait pour voir si c'était vrai ou faux. Il y avait le personnage et la personne. Et le rôle du philosophe, c'est de piquer le personnage pour voir si la personne réagit. C'est ça l'ironie de Socrate. C'est de piquer les mollets du Suisse. C'est extraordinaire, ça. Elle voit tout de suite, ça réagit. Alors ça, c'est l'ironie. On voit si ça réagit. Alors, maintenant, soyons sérieux. Voyons, prosopon, le masque, le rôle, le personnage qu'on joue. C'est très intéressant, vous voyez, que c'est d'abord par là que le mot prosopon est entré en philosophie. Et à partir d'un certain moment, le mot « personne » est arrivé, alors non plus pour jouer le rôle, mais pour être le sujet des activités. Des activités libres. Au fond, la responsabilité. Vous voyez, il y a une continuité entre le personnage et la responsabilité. Je joue un rôle, je suis responsable de toutes les conséquences de ce rôle. C'est par le point de vue de la responsabilité que le masque, le personnage, est arrivé au responsable de mes activités. Et puis, ensuite, en dernier lieu, hypostasis. Hypostase. Bon, si je regarde la topique grecque, je vois que de fait, on est passé de masque, personnage, ah oui, vous illuminez le tableau, c'est bien, de masque, personnage, à sujet des activités, et hypostase, qui veut exprimer l'autonomie dans l'être. C'est très curieux. Je crois que c'est les trois grands moments que je découvre en philosophie grecque. Et ça, je crois que c'est important de comprendre ça. Intéressant de voir qu'on est arrivé progressivement à remonter à cette autonomie dans l'ordre de l'être, mais pas tout de suite. Alors, une fois qu'on a ça, je vais maintenant signaler quelques noms, quelques étapes. Mais en gros, c'est ça. Indépendamment du nom, prosopon, hypostasis, indépendamment du nom, la réalité de la personne est arrivé très vite en philosophie grecque. Je crois que les premiers qui ont le sens de la personne, ce sont les pythagoriciens. Les pythagoriciens, c'est une philosophie qui a commencé par le point de vue religieux. On dirait aujourd'hui une secte. C'est pas tout à fait ça, parce que c'est des philosophes. Mais au fond, c'est quand même des communautés religieuses, les pythagoriciens. Et le souci premier, alors, c'est de regarder la destinée de l'homme. L'homme a une destinée. L'homme est l'homme religieux. Je crois que c'est l'homme religieux qui a une destinée vers l'au-delà, qui va donner le premier moment de cette réflexion sur la personne. Je crois bien. C'est intéressant, vous voyez, de voir là toutes les traditions religieuses. La tradition religieuse maintient un sens que l'homme est plus que l'univers. Il a une destinée. La moira, grecque, la destinée. Vous voyez, c'est quelque chose de très particulier. On est orienté vers quelque chose de plus grand que nous. On est polarisé par ça. C'est la destinée. Là, le mot personne comme mot n'y est pas. C'est l'homme orienté. Vous trouverez exactement des choses très analogues, voyez, dans les psaumes. On est comme la flèche de Dieu, dans le carquois de Dieu. On est prédestiné. La moira et la prédestination. Ce serait très intéressant à voir la différence. La moira grecque, la destinée grecque, nous saisit d'une manière telle que on est pris dans un ordre où il n'y a pratiquement plus de liberté. On tombe très facilement dans le fatalisme. Et c'est ce premier sens, je crois, de l'homme qui va vers un au-delà. La moira. Vous êtes né sous une bonne étoile. Vous voyez l'astrologie. Et parce que vous êtes né sur une bonne étoile, ça réussit. Votre voisin, il est né 2 jours après. Mauvaise étoile. Tout rate. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui passent tous leurs examens? Facilité extraordinaire. Alors on dira, on a bien prié. Et d'autres, au contraire, ils ratent tout. Alors, au bout d'un certain temps, si cette tempête, je suis né sous une mauvaise étoile. Moi, je suis né sous une bonne étoile. Les pythagoriciens, sans aller jusque-là, regardent le point de vue de la destinée. Vous avez ensuite Platon, je vous ai dit, c'est le point de vue de l'âme. L'âme contemplative. L'homme est né comme satellite des dieux, satellite dans le Phèdre. On voit très bien ça. L'âme humaine est une âme contemplative. Mais à cause du péché, à cause de sa bêtise, elle est liée au corps. Donc le problème de la personne, c'est l'âme. Et c'est pas la personne, mais c'est l'âme spirituelle. Platon ne parle pas de la personne, mais il parle de l'âme. Aristote parlera de l'ami. L'ami capable d'être lié à l'ami. Ah, ça, je dirais que c'est le premier moment par l'amitié qu'on va découvrir à la fois la liberté. On choisit librement un ami. Alors, on pourrait dire, oui, c'est la providence qui m'a mis sur ta route. C'est bien évident. Mais on sait que c'est la providence et on coopère dans un acte libre. Ce sera la filia. La filia, l'amour d'amitié, qui, je crois, nous, toute l'éthique d'Aristote, toute la morale est nouée autour de la filia. Et puis, elle s'achève dans la contemplation. Donc, il y aura la filia et la théoria. La contemplation. Il va assumer par là tout le platonisme. Je crois qu'on peut dire que là, on est en présence de la réalité de la personne au niveau éthique. Et méta-éthique, la contemplation. Quelque chose qui dépasse l'éthique, la contemplation. Vous voyez, comme c'est différent, hein. Ici, j'ai regardé les noms. J'ai regardé prosopone, personne, hypostasis. Ici, je regarde la réalité philosophique. Je vois que le problème de la personne s'est posé d'abord par le point de vue religieux de la destinée. Donc, on dirait d'une finalité. D'une finalité qui s'impose. Une finalité qui s'impose. Je suis téléguidé. Téléguidé par les dieux. Téléguidé par les astres. Et les astres sont divins. Je suis téléguidé. Premier sens de la personne, en réalité, religieux. Puis, je vois que la personne, le cœur de la personne, le sang de la personne, l'âme contemplative. Et ensuite, je reviens à quelque chose de beaucoup plus humain, l'amitié, sans supprimer la contemplation. C'est le point de vue d'Aristote. Aristote humanise Platon, le divin Platon. Ou si vous voulez, incarne Platon. Pour Platon, il n'y a pas d'amour d'amitié. Il y a Eros, l'amour, qui conduit tout de suite au bien en soi. Il y a un télescopage de ce que représente l'amour d'amitié comme le lien entre les personnes. Et après Aristote, alors vous trouvez les stoïciens. Et c'est eux qui vont, de fait, employer le mot « personne » au plan philosophique. Mais pour eux, la personne est avant tout la personne au niveau politique. Les stoïciens ont un sens politique extraordinairement fort, de l'action politique. De l'agir politique. C'est la vieille conception grecque du sage. Mais alors, pris ici, dans le point de vue politique, il n'y a pas de contemplation. Pour les stoïciens, il n'y a pas de contemplation. Et Breyer, quand il voit les stoïciens, il nous dit, les stoïciens reviennent à la grande tradition grecque que Aristote et Platon avait un peu oublié. C'est très curieux, tu vois, c'est comme perspective. Et je crois que c'est vrai. Les stoïciens, la personne, c'est l'action politique. Vous voyez, la responsabilité. Si vous définissez la personne par la responsabilité, c'est évident que vous arriverez très vite à dire que la personne, c'est l'homme politique. Puisque votre responsabilité n'est jamais aussi grande que dans une action politique. Parce que là, vous n'agissez pas seulement pour vous, vous agissez aussi pour les autres. Alors, c'est ça qui est intéressant peut-être à noter, c'est que le point de vue de la responsabilité commence à jouer un rôle très important. Contemplation, amitié, politique. Vous voyez, c'est assez subtil, hein. C'est Parce qu'en fait, que ça vient saisir la ligne de fond. La personne, c'est la personne qui est responsable. Alors qu'au point de départ, la personne avait commencé par le point de vue religieux de la destinée, où vous êtes mu. C'est la nécessité. La moira, la nécessité. C'est la finalité qui m'absorbe. Je suis mu. C'est la flèche. La destinée. Oui, c'est perspectives diverses sur le point de vue de la personne. Et puis, en dernier lieu, au-delà des stoïciens Platon, vous retrouvez que la personne ne peut se définir que par son union avec Zeus, avec Dieu. Donc il y a tout un balancement. Il n'y a pas qu'une seule vision de la personne. La personne hypostasis. Et on est lié à l'absolu divin par une énosis, une union, au-delà de la contemplation. Vous pouvez donc dire, en gros, que chez les Grecs, le problème de la personne est central. Mais il n'est nommé qu'à partir du point de vue politique. Les stoïciens, la responsabilité politique. C'est curieux que c'est la responsabilité politique qui a permis la naissance du mot « personne » au sens de quelqu'un de responsable. C'est pour ça que la responsabilité joue un rôle très très grand dans la conception même de la personne. Je crois que c'est le fil d'Ariane. C'est ça qui permet de comprendre ce que c'est que la personne en philosophie grecque. L'ami est responsable de son ami. Le contemplatif, lui, il se laisse attirer. Il est responsable de cette attraction. Et c'est cela qui lui donne son autonomie. Par la responsabilité, on découvre l'autonomie de la personne, hypostasis. Je dis ça rapidement, j'espère que vous voyez. Ça montre que le problème de la personne est complexe. C'est pas simple du tout. Parce que nous avons un concept de la personne, c'est à voir. Je crois qu'on voit des attitudes différentes. Mais je crois que ça reste vrai. Pythagoricien, Platon, Aristote, stoïcien, Plotin. Vous savez, comme différents moments où la personne se développe en philosophie grecque. Ensuite, alors là je vais très vite, l'âge des théologiens. Et parmi les théologiens, celui qui a réfléchi le plus sur la personne, Thomas d'Aquin. Je crois qu'on peut dire que ce qui fait l'unité de toute la réflexion de saint Thomas, c'est le problème de la personne. On ne l'a pas mis très en lumière, ça. Et pourtant, je suis persuadé que c'est ça qui a été, pour saint Thomas, l'os central de toute sa réflexion théologique. Qu'est-ce que c'est que la personne ? Et saint Thomas tient bon, hein. Qu'est-ce que c'est que la ratio personae? Qu'est-ce que c'est que la personne? Qu'est-ce qui constitue la personne? Alors, je n'en parle pas maintenant, j'en parlerai. Puis, après saint Thomas, nous avons une scolastique décadente. Vous voyez, quand on est monté très haut, l'Himalaya théologique. L'Himalaya théologique, je crois que c'est saint Thomas. Ça Saint-Augustin, c'est le Mont Blanc. C'est déjà pas mal. Mais c'est le Mont Blanc. C'est beaucoup plus facile. La montée du Mont Blanc. L'Himalaya, oulala. Difficile, Saint-Thomas. Très, très difficile. C'est parce que Saint-Thomas est très difficile qu'on le rejette. Parce qu'on n'aime pas d'avoir un maître qui vous dépasse. Saint-Thomas, c'est quand même quelque chose. Et la manière dont saint Thomas parle de la personne, c'est très fort. Saint Augustin lui est resté au niveau Platon. Après saint Thomas, après la scolastique, après les théologiens, nous avons Descartes. Alors, il faut se poser la question, est-ce que de fait, nous trouvons chez Descartes un problème nouveau de la personne? Je ne crois pas. Sauf autour du cogito. Alors, le cogito Descartes, il s'est développé. Et le cogito Descartes, c'est d'essayer de comprendre d'une critique et réflexive le noyau central de toute la philosophie. On définit la personne par la substance pensante. On va essayer de découvrir par la conscience le problème de la personne. Mais l'attitude réflexive. La conscience et l'attitude réflexive. Et ça, c'est vrai que Descartes, à ce point de vue-là, pose un nouveau problème. Cogito ergo sum. On définit l'être par la conscience. On définit la personne par la conscience. Alors, Descartes, au sens propre, n'a pas tellement employé le mot personne. Regardez le petit lexique de Gilson sur Descartes. Regardez dans ce lexique le mot persona. Il n'y a pas grand-chose. C'est la substance pensante. Je crois que c'est vraiment ça, le problème de la personne chez Descartes. La substance pensante. Et la substance pensante, c'est le cogito, et le cogito va s'exprimer par le point de vue de la liberté. Problème de la conscience, le problème de la liberté. C'est très moderne. La substance pensante cogito, la conscience que je pense, la certitude, et le problème de la liberté. Et qu'est-ce qui va unir conscience et liberté? Le problème de l'infini. Le cogito pense l'infini. Je cogite l'infini. L'idée innée. J'ai des idées innées. Et cette idée innée porte sur l'infini, porte sur la liberté. Je crois que l'infini fonde la liberté. Je suis libre parce que je suis infini, parce que je pense infini. Vous voyez, mais la personne se ramène au cogito. Je crois que c'est ça l'originalité de Descartes. Et ce qu'il y a de tout à fait nouveau, il faut le reconnaître. quelque chose de tout à fait nouveau. Il y a, par rapport à la philosophie grecque, Descartes pose le problème du cogito comme fondamental et premier. Et donc la personne est regardée dans une attitude réflexive. De Descartes à Hegel. Mais entre deux, ou si vous voulez, immédiatement après, parce que je crois que c'est important de regarder ça, il y aura tout le problème de la psychologie. La psychologie va essayer de remplacer la philosophie. Je crois que c'est l'ambition fondamentale de la psychologie. Sans le dire, c'est curieux, il y a deux rivales de la métaphysique, les mathématiques et la psychologie. D'une façon totalement différente, hein. Mais les mathématiques jouent ce rôle d'être la pensée la plus claire, la plus certaine. Et c'est vrai, c'est en mathématiques que tout a une clarté particulièrement grande. Et ceci se dit d'une manière très claire dans Brunswick. La pensée mathématique, c'est la pensée la plus claire. Et la psychologie n'est pas la pensée la plus claire. C'est pour ça qu'il y a une rivalité entre mathématiques et psychologie. Hein. Là. La psychologie va être dans cette attitude de réflexion sur la conscience. N'est intéressant que ce dont j'ai conscience. Je vis dans la conscience, le vécu. Et vous aurez alors, et ça qui est important pour nous, tout un aspect extrêmement intéressant au niveau psychologique de nouer la personne humaine. Et ce serait très important de voir comment la psychologie tend à nous donner une conception nouvelle de la personne. Parce qu'il y a une conception nouvelle de la personne en psychologie. On va essayer de comprendre la personne dans une attitude d'une personne qui se fait. La personne humaine se fait. L'enfant dans le berceau n'a pas de personnalité. Ah. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a la personne, le personnage, et nous allons maintenant parler de la personnalité. Au niveau psychologique. Au niveau psychologique, c'est la personnalité. Et on parlera de l'aspect génétique de la personnalité, la genèse de la personne. Puisque le point de vue psychologique est toujours lié à l'aspect génétique. Comment se fait la personnalité ? Je prends ici une position qui me semble particulièrement intéressante. Où on étudie cette genèse de la personnalité. Et on essaiera de comprendre comment la personnalité se construit selon trois grandes dimensions qui résument, je crois, assez bien toutes les recherches psychologiques autour de la personne. Le moi profond. Ou le moi fort, le moi profond, qui va exprimer ce que représente cette personnalité au niveau génétique. On aura trois grands aspects. L'autonomie, la valorisation et la sécurité. Voilà les trois sentiments du moi. Du moi psychologique. La sécurité, l'autonomie, la valorisation. C'est Audier, qui est mort maintenant, qui nous donne ce point de vue-là, la genèse de la personnalité. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que je crois que ça exprime bien tout l'aspect des recherches psychologiques. Le moi profond, le moi vrai, il se noue autour de cela. Les trois sentiments du moi. Alors, j'essaie de comprendre. C'est qu'en effet, la personnalité se noue autour de la sécurité, autour de l'autonomie, autour de la valorisation. Et ceci, alors je complète ce que dit Audier, parce qu'Audier ne le dit pas, mais c'est assez facile à comprendre. Et c'est directement d'un point de vue psychologique. La personne se noue dans la lutte, la personnalité. On est tout le temps en lutte. Et c'est vrai, ça. Lutte intestine, lutte extérieure. Notre personnalité actuelle. C'est notre moi, sentiment, notre moi profond. Mais notre moi profond doit lutter. Vous luttez contre la sécurité. Vous luttez par rapport à l'insécurité. L'autonomie lutte par rapport à l'aliénation. Puisque l'autonomie s'oppose à l'aliénation. Quand vous êtes pris par l'aliénation au point de vue psychologique, vous n'avez plus aucune autonomie. Et puis, la valorisation, ça lutte contre la culpabilité. Sécurité, l'angoisse. L'insécurité, c'est l'angoisse. Je crois que vous avez là les trois aspects anti-sentiments du moi que la psychologie va beaucoup développer et surtout dans les méthodes, si vous voulez, thérapeutiques. Il y a en nous quelque chose qui nous empêche d'avoir un sentiment profond du moi. On est angoissé. Ben, l'angoisse, on en a parlé. Hein. On sait ce que c'est que l'angoisse. Très difficile à préciser. L'angoisse. On est, dès qu'on est angoissé, plus aucune sécurité. Ça, c'est sûr. L'aliénation aussi. L'aliénation, c'est à l'égard du milieu dans lequel on se trouve. On a des phobies du milieu. On est aliéné. Quand on est fatigué, vivre dans une communauté nombreuse, c'est impossible. Ça m'aliène. Alors on lutte contre. Et puis la culpabilité contre la valorisation. La culpabilité regarde le futur, le passé. Le passé. Toutes les bêtises que j'ai pu faire. Culpabilité. Sentiment de culpabilité. Qui supprime la valorisation. L'autonomie, c'est le présent. Et l'angoisse, c'est le futur. très curieux. La psychologie, elle est toujours dans le temps. Elle est dans la lutte. Et par rapport à ce qui vient supprimer mes sentiments du moi, je trouve tout à fait le futur. Quelqu'un d'angoissé ne parlait jamais du lendemain. Ça va l'angoisser encore plus. Quelqu'un qui est aliéné, c'est le présent. Il est aliéné dans le milieu actuel dans lequel il se trouve. Et la culpabilité, c'est le passé. Tout ce qui n'est pas assimilé, tout ce qui n'est pas assimilé va se traduire en sentiment de culpabilité, sentiment d'aliénation, sentiment d'angoisse. Et je lutte contre ces trois sentiments pour arriver à quelque chose qui me permet d'être moi-même. Et quand on dit qu'on a perdu le sentiment de son identité, ça fait partie de ces formules d'aujourd'hui. Je ne sais plus ce que je suis. Ah, mais qu'est-ce que je suis ? Mais vous êtes dilué dans le milieu dans lequel vous êtes, complètement aliéné. Vous n'avez plus aucune force de regarder le futur. Vous êtes angoissé. Et la charge du passé, la culpabilité. Oui. Je vois très bien psychologiquement comment ma personnalité se construit face à ces trois aspects dans lesquels je me trouve. Ce poids du passé qui est très grand, qui est très fort et qui me culpabilise. Je crois que là, il y a quelque chose de très important pour nous, psychologiquement, la personnalité. Vous réfléchirez là-dessus. On ne fait pas de psychologie ici, mais on s'intéresse à la psychologie. Et je crois que la psychologie elle-même se noue autour de cette personnalité qu'il faut conquérir. Il y a quelque chose de juste, hein ? Autrement, je ne le noterai pas, ça ne m'intéresserait pas. Tu dirais, c'est erroné. Non, il y a quelque chose de juste. Je n'ai pas le droit de mépriser la psychologie. Mais je n'ai pas le droit, si je suis philosophe, de considérer que la psychologie me donne la vraie solution. Non. Elle est à un certain niveau qu'il faudra essayer de préciser. Il faudra voir ce qu'il y a de juste dans cette construction d'Audier, Charles Audier. Qu'est-ce qu'il y a de juste là-dedans ? Sécurité, autonomie, valorisation. Et pour bien comprendre ces trois, je regarde l'ennemi de ces trois. La psychologie est toujours un peu dramatique. Hein ? Si vous aimez le drame, faites-vous psychologue. Alors vous aimez le drame. Un drame terrible en moi. J'ai la sécurité, mais je sens l'angoisse. Et il y a des jours où l'angoisse est terrible. Plus aucune sécurité. Je suis dans un terrain mouvant, miné. J'arrive plus. L'autonomie, ah mais je suis aliéné. Je suis aliéné dans le milieu dans lequel je suis. La valorisation, très bien. Mais je suis dans la culpabilité constante. Donc les trois sentiments du moi s'acquiert en face d'un ennemi invisible. L'angoisse, l'aliénation, la culpabilité. Si je pouvais les voir, mais c'est un terrain miné. Donc, c'est très important, en face de cette psychologie qui parle de la personnalité, de comprendre qu'est-ce que c'est que la vraie personne.